L'interview musicale avec Diego sur RTM, la radio Sud Médoc.
Bienvenue sur RTM. Aujourd'hui, nous recevons Didier Esteb, directeur fondateur du Krakatoa, en collaboration avec Musique en Live, site web sur lequel vous pouvez retrouver l'intégralité de cette interview. Jean-Claude Boisnier et moi-même avons visité l'antre mérignacaise, accompagné du photographe Laurent Robert. Tout d'abord, je demande à Didier comment a-t-il commencé dans le monde musical.
J'étais au sein d'une association qui s'appelait l'AEM et qui a été montée pour gérer un local de répétition pour un groupe sur la ville du Bouscat. De fil en aiguille, sur des provocations lycéennes, on m'a dit que je ne serais pas capable d'organiser un concert et j'ai organisé un concert le 12 décembre 1982. Alors qu'avant, j'étais spectateur. Et de fil en aiguille, j'étais à la fac au lycée puis à la fac d'histoire. Le premier concert a été fait entre autres avec le groupe du lycée dans lequel j'étais, Noir Désir avec des S. Développement du groupe, le fait de passer dans pas mal d'endroits et de voir pas mal de choses. Faut savoir que sur Bordeaux, il n'y avait que des clubs, donc des bars qui faisaient des concerts de toute taille. Pas de salles avec des programmations régulières. De manière générale en France, c'était un petit peu partout pareil. Sauf dans certains lieux comme Rennes ou des choses comme ça. Mmh. Et l'idée est venue, sans qu'on se concerte dans un premier temps, d'essayer de monter des lieux qui fassent à la fois du concert, donc des salles, pas des bars, des salles qui avaient des bars, et ensuite faire aussi d'autres choses que du concert. Ça peut être des répétitions, ça peut être plein de choses. Et que l'idée a germé, que j'ai rassemblé autour de moi un groupe d'aficionados de l'époque. On a monté l'association Transrock toute fin 80. Et l'association existait. Et j'ai cherché un lieu, parce que l'idée existait, mais il fallait une coquille pour l'œuf. Et donc j'avais regardé un petit peu partout. Et suite à une résidence qui s'était déroulée dans la salle des fêtes d'Arlac, j'ai fait la rencontre de Michel Sainte-Marie, qui était le maire de Mérignac, et avec qui j'ai expliqué le projet et qui a donné son feu vert. Et c'est comme ça que le Krakatoa a vu le jour dans la salle des fêtes d'Arlac. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé Krakatoa, parce qu'on trouvait que c'était pas très rock'n'roll, la salle des fêtes d'Arlac. Et on a donc commencé les concerts le 17 mars 1990. Et on a décidé que ça serait la date d'ouverture de cette nouvelle salle. Et c'était, sauf erreur de ma part, il y a 36 ans.
Alors Didier, je pense qu'ils sont nombreux. Quels sont tes meilleurs souvenirs au Krakatoa ?
Oh, il y en a plein.
Mais
c'est tout le souci, cette question me la pose très fréquemment.
Ah oui.
Donc si tu veux, je me méfie de me préparer des réponses qui deviendraient complètement standardisées. Après, ça va être, il y en a tellement.
Franchement,
il y en a tellement. Screaming Jay Hawkins, sur la scène du Krakatoa, c'était quelque chose. Plus récemment, Paul Weller, qui sort de scène et qui me dit, c'est mieux ici que, je crois qu'il avait joué à Paris, dans une salle mythique. Et il me dit, c'est mieux ici. J'ai dit, oui, mais tu sais, on va tout rénover. Donc, si tu veux, il y en a tellement. Moi, après, c'est par rapport aux artistes que j'aime. Quand je pense au concert de Nick Cave, oui, c'est un sacré souvenir. PJ Harvey, premier passage, énorme souvenir. Mais ça, c'est des concerts d'il y a quelques années maintenant. Mmh.
Pierre Wetzel est un photographe fidèle à la salle qui publie début septembre un livre sur ses collodions. Quelle importance ont ces travaux pour la salle du Krakatoa ?
Donc voilà, il y a toujours eu ce travail autour de la photographie au moment du concert. Et Pierre, quand il arrive avec son nouveau principe du collodion, et que je vois le résultat du collodion, je me dis, mais en plus, enfin, c'est top, quoi. Moi, j'adore les photos en noir et blanc, et je me dis, c'est vraiment top, il faut qu'on participe à ça. Et à partir de là, je lui ai dit, bah, écoute, tu viens à tous les concerts, et on propose ça aux artistes, et ça a bien mieux fonctionné que le numérique. Et voilà, et les résultats, ben, tu vois, je pense qu'il a eu un beau terrain de jeu, et qu'il a su bien l'utiliser. Les artistes ont beaucoup aimé et il a été au-delà des artistes puisqu'il y a des photos de gens qui périphériques au sens de la, je me souviens d'une nana de c'est elle je crois d'ailleurs qui va faire la une des, ouais c'est je faisais le merchandising des gens de l'équipe des gens de l'idée c'était de prendre ce monde autour du concert autour du Krakatoa.
Alors Didier, peux-tu nous parler de la rénovation du Krakatoa?
C'est véritablement une rénovation, c'est-à-dire qu'on n'a pas rasé le lieu pour en faire un nouveau. Il y a toujours les murs, pour être honnête, le volume sale que vous connaissiez, qui a été conservé, tout ce qui était périphérique a été enlevé et reconstruit. Et donc l'idée, c'était de conserver son acoustique, c'était de conserver son rapport scène-salle, qui est très, très intéressant, puisque les gens les plus loin restent à 21 mètres. Ça, c'est quelque chose qui était là depuis le début, qu'on a voulu conserver. C'était l'améliorer, le rendre tout à fait en adéquation avec les productions aussi d'aujourd'hui, parce qu'il y a des nécessités techniques qu'on n'arrivait plus à satisfaire dans le Krakatoa tel qu'il était dans sa deuxième vie, puisque sa première vie c'était une salle des fêtes. Sa deuxième vie, ça a été à partir de 90 le Kraka tel que vous l'avez connu, avec grâce à la ville de Mérignac des mises aux normes, des améliorations mais successives, et on était arrivé au bout, d'où la proposition en 2015 à la ville et aux autres partenaires de faire une véritable rénovation en profondeur qui nous permettait à la fois d'accueillir les productions pour au moins les 20 ans à venir, améliorer donc tout ce champ-là, améliorer aussi l'accueil. Nous, pour l'accueil a toujours été important, je pense, des artistes comme des spectateurs. Donc c'était passé de nos deux loges en demi-sous-sol, où parfois on était quelque peu serré, puisqu'il y avait aussi le catering.
La cantine.
Voilà, et donc là, améliorer ça, maintenant on a 5 loges, un catering vraiment de bonne taille, avec tout ce qu'il faut pour bien recevoir les gens. C'était aussi améliorer le confort de l'équipe permanente qui travaille toute l'année. Nous avions des bureaux qui étaient quelque peu succincts, on va dire ça comme ça, je crois qu'on appelle ça une litote. Améliorer l'accueil aussi des spectateurs et des utilisateurs, parce que le Kraka, faut pas perdre de vue que c'est une salle de concert, mais c'est aussi un travail autour de l'accompagnement d'artistes, la pépinière et le fil sonore. C'est un travail de médiation et de création jeune public. Voilà, il y a d'autres personnes que les spectateurs pur et dur qui viennent au Kraka.
D'ailleurs, à cet effet, quelles sont les nouvelles jauges ?
Donc là, maintenant, dans le Kraka rénové, il y a un club de 250 places.
250 le club.
Et derrière, la grande salle reste une salle fractionnable. C'est-à-dire qu'il y aura une jauge à tout le parterre, il y aura même une jauge à 500, pour être honnête, qui représentera une partie du parterre, une jauge à quasi 800, tout le parterre, debout, j'entends, une jauge à 1100, ou à peu près, en utilisant le balcon tel que vous l'avez connu, mais avec maintenant des accès latéraux et non plus central, et une jauge, qui là est nouvelle, à 1445. Et ces différentes jauges, la rénovation a envisagé dès le départ un système de pendrillonnage, de rideaux, qui nous permet à chaque fois de fermer ce qu'on n'utilise pas.
Cette rénovation sera à découvrir le 4 septembre avec l'inauguration officielle du site, prévue à 19h, et le 10 septembre avec le premier concert, le français Mézergue. Merci à tous et à bientôt sur RTM.